A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 637 du podcast Jeune Actuel. Mathé, très heureux de vous retrouver pour continuer de parler NFL avec vous. À mes côtés, deux personnes aujourd'hui, Raphaël Masmejean, bonjour.
Salut Alain, salut à tous.
Et Lucas Vola, bonjour.
Salut Alain, je fais ma rentrée, je suis ravi d'être avec vous messieurs.
C'est ce que j'allais dire, c'est de la première de Lucas Vola en saison, puisqu'on t'a entendu pendant la pré-saison quand même.
Ouais, j'ai pris deux bye week d'entrée, histoire de commencer fort en semaine 3.
Bah, et puis on peut le dire, en semaine 3, tu étais au commentaire sur M6 aussi. Donc, ah oui, mais c'est vrai qu'il y a eu bye week. J'avais oublié les bye week avant. J'ai le droit de dire qu'il faut te suivre sur Instagram parce que tu mets des super photos ou c'est
privé ? Tu peux. Ça, pas sûr que ça intéresse beaucoup les fans de foot US parce qu'il n'y a pas beaucoup de ballons qui traînent dans les stories. Mais
non,
tu peux y
aller. C'est des belles photos quand même. Des hypes qui se dégonflent, des blessures et des espoirs qui s'évaporent. C'est le programme du jour en NFL et dans le débrief de la semaine 3. C'était une semaine difficile pour certaines équipes. Avant de démarrer, on vous rappelle que nos émissions du mois de septembre vous sont présentées par Sisplay. Vous vivez toujours la saison régulière sur Sisplay, Sisplay.fr, l'appli, les applis Android TV, Apple TV et Fire Stick. Tous les dimanches à 19h, une affiche NFL en direct et gratuitement sur Sisplay. Cette semaine, Lucas, tu sais à quelle sauce tu vas te manger ? C'est une
Je
belle affiche.
On est sur de la FC Est encore.
On est encore sur de la FC Est. Bills, Dolphins. Bon, là, le level est un peu plus haut normalement.
Si on voit pas de touchdown là, franchement, il faut tout arrêter.
Ouais. Ah ouais, là, ce serait très dur. Très dur. Bills, Dolphins, donc, ce sera encore Lucas Vola ici présent et Grégory Richard que l'on salue aux commentaires après leur première sur le Jets Patriots de la semaine dernière. Clairement, en termes offensifs, après je te le souhaite et je vous le souhaite à tous les deux, mais on disait la même chose en semaine 2 avec Greg quand on a fait voilà, franchement le Jaguars Chiefs après le Steelers 49ers ça va quand même être autre chose, etc. Et
c'est pour ça que là je vais pas trop m'emballer, mais bon, normalement ça devrait le faire.
Alors, juste le petit facteur mitigant, c'est que c'est à Buffalo. Alors, bon, avec le dérèglement climatique, normalement vous êtes bon, hein, mais imagine, il se met à neiger et ça finit en 5-0, tu vois, tempête de neige. Et voilà. Bon, non, normalement, très beau match. Ce sera sur Sisplay dimanche 19h. Nous, on va commencer notre débrief. Si je retrouve mon jingle. Mais où est-il passé, petit jingle ? Il est là.
Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Et Et en parlant des Jaguars, justement, ils jouaient contre les Texans cette semaine. Jaguars 17, Texans 37. Ils devaient marcher sur l'AFC Sud et pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Les Jaguars étaient menés 17-0 à la mi-temps par les Texans. Ils sont revenus à 17-10, mais Houston n'a rien lâché. Retour de kick-off pour un touchdown un peu fou par le fullback Andrew Beck et un quatrième carton sans frayeur. 9 points la semaine dernière, 17 ce dimanche. Messieurs, qu'est-ce qui se passe avec Jacksonville ? Lucas, pour ta rentrée.
Il se passe qu'il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs. Les Jaguars font beaucoup d'erreurs qui leur coûtent beaucoup de points. Alors, en attaque, tu l'as dit. Dans les équipes spéciales aussi, on l'a vu, ça leur a coûté au moins 13 points, je crois, avec un touchdown qui les ont concédé, avec des field goals manqués, des field goals bloqués. Et puis, en attaque, il y a trop d'erreurs. Il y a des drops. Il y a un drop de Ridley qui coûte quasiment un touchdown. Il y a un Trevor Lawrence qui n'est pas mauvais. Mais j'ai envie de dire, il est juste ok, il est juste moyen, il n'est pas forcément mauvais, mais il n'est pas très bon, on l'attendait bien meilleur, moi le premier, et il n'arrive pas vraiment à porter cette attaque, et tu l'as dit, ça donne 17 points face aux Texans, on ne s'attendait pas à ça, et c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant, même si c'est que la semaine 3.
La première mi-temps, field goal manqué, punt, field goal bloqué, punt, fumble, Trevor Lawrence intercepté dans le troisième quart-temps alors qu'ils ont 14 points de retard, Raphaël, autant d'erreurs, c'est difficile de se le permettre quand tu as des ambitions, en théorie, ce qui est le cas des Jaguars. Est-ce que c'est réparable au moins ?
Les erreurs individuelles, oui, on a forcément envie de dire que ça peut être réparé. Un peu de concentration, un peu d'effort à gauche, à droite, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. En tout cas, pour le moment, on est en rodage. C'est très bien que les attaques démarrent toujours un peu plus lentement la saison que les défenses. Donc là-dessus, j'aurais envie d'être optimiste. Ce qui m'inquiète plus, moi, peut-être, c'est l'ascendant que semble avoir un peu perdu Doug Peterson sur le play call offensif, enfin sur les appels de jeu qu'il semble avoir confié à son coordinateur offensif. Et pour le moment, moi, je suis pas très enthousiasmé parce que je vois en termes d'appels de jeu. Là, encore une fois, on a sur la première mi-temps, par exemple, il y a que 12 courses appelées et sur les 12 courses appelées, t'en as 9 qui sont sur première et 10. Donc vraiment, le truc bien classique, je commence ma série. Mon premier first, ma première tentative par une course, je gagne 2 yards, 3 yards, et puis je vois derrière, je fais de la passe. Enfin voilà, je trouve que ça manque de d'appel de jeu un peu créatif, c'est très stéréotypé, très téléphoné. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui se règle, à mon sens, plus difficilement que des petites erreurs individuelles. Donc voilà, j'attends de voir la suite, mais je suis pas convaincu, et comme le reste, et ce qui est embêtant, c'est que, pardon pour je fais un peu long, mais c'est l'attaque qui devait porter cette équipe notamment, et là pour le moment elle le porte pas, et du coup on voit que la défense est pas bonne, enfin est correcte mais sans plus, et donc ça montre encore plus les fragilités de cette équipe.
Il y a 404 yards malgré ces choix de jeu un peu frileux, hein, il y a 404 yards, donc c'est vrai qu'il y a un peu des deux de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a ces erreurs qui sont corrigeables. C'est un mot, ça. Correctible, je ne sais
corrigeable.
Pas.
J'ai
on peut corriger, quoi. Là.
Ouais, voilà, qu'on peut corriger. Donc, tu as quand même de la production, mais c'est vrai que ça pourrait être plus enlevé au niveau des choix. On va résumer ça comme ça. Lucas, ça te convient ?
Oui. Après, Raph disait que ça peut être plus compliqué à régler. Oui et non, dans le sens où Doug Peterson peut très bien se dire, je reprends les appels de jeu. On a vu ce que ça donnait l'année dernière. Et pour le coup, il a l'expérience sur ça. Donc, c'est peut-être pas le signal qu'il veut envoyer à son staff. Mais si arrive le moment où ça devient une urgence, c'est une solution qui peut être envisagée.
Et c'est vrai que la défense, pour revenir aussi à la défense des Jaguars, je sais plus lequel de vous deux parlait de défense correcte, voire moyenne. C'est sûr que c'est un peu ça. C'est-à-dire que aucun ballon volé. Houston a 9 sur 15 en troisième tentative. Ça fait quand même. C'est même plus que moyen. Ils ont eu du mal à sortir du terrain, comme on dit, Raphaël.
Oui, t'as raison, c'est plus que moyen, ils ont eu du mal à sortir du terrain. On a quand même une escouade de cornerback safety qui est peu convaincante. Et peut-être le plus gros problème, c'est cette ligne défensive qui n'arrive pas à dominer. Là, ils affrontaient quand même une ligne offensive des Texans sur lesquelles il y avait beaucoup de blessés, enfin beaucoup de titulaires absents. Et malgré ça, il y a une incapacité à mettre beaucoup de pression sur CJ Stroud. C'est embêtant, c'est à l'image de toute l'équipe, ça marche pas très bien, c'est pas au niveau attendu, donc oui.
On va pas dire un mot aussi évidemment sur ces Texans, surprenant, première victoire pour CJ Stroud, 20 sur 30, 280 yards, 2 touchdowns, aucune interception. Clairement, Lucas, c'est le meilleur quarterback rookie de la QV pour l'instant.
Oui, pour le coup, clairement. Et puis, en effet, il avait déjà fait quelques bons matchs, qu'il avait donné de bonnes images sur les 2 premières semaines. Puis là, il fait un très bon match. Rafladi, en plus, il n'était pas forcément aidé par beaucoup d'absence sur sa ligne offensive. Il prend aucun sac. Alors, c'est à la fois dû au fait que le pass rush des Jaguars n'était pas très bon, mais aussi au fait qu'il est bon dans sa poche. Il arrive à se débarrasser du ballon. Il est mobile aussi. Donc, quand il est un peu mis sous pression, il peut en sortir. Et on l'a vu être capable de prendre des yards à la course, mais aussi faire des passes hors de sa poche. Pour le coup, c'est un très bon match. Et en effet, il est en train de montrer que c'est un très bon choix aussi. Il va falloir un petit peu, je pense, développer le sol du côté des Texans, mais c'est vrai que dans les airs, il y a des receveurs en plus qui se développent, c'est plutôt encourageant.
Raphaël,
Oui, non,
CJ Stroud, il fait belle impression quand même.
Ah
hein.
Oui, moi, il fait une très belle,
depuis,
il fait une très belle impression, mais au-delà des stats, c'est même ce qui dégage. Je le trouve globalement serein dans sa poche, bon dans les lectures. C'est pas anodin, il est à 0 interception en 3 matchs. Pour un rookie, c'est pas si anodin que ça de ne pas lancer d'interception. Alors, je sais pas combien de temps ça va continuer, rester dans ce sens-là, mais. Voilà, pour moi, c'est quand même la preuve que globalement, il est assez sûr dans ses choix. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps chez les rookies, tous les ans. Donc à ce niveau-là, il fait une vraie belle impression. Et Houston semble avoir trouvé le bon plan, clairement.
Il est bien aidé par Tank Dell, 5 réceptions, 145 yards, un touchdown. Là aussi, hein, c'est une belle trouvaille. Ils sont bien coachés, même malgré leur jeunesse. Raphaël, je sais que tu aimes bien ce que fait DeMeco Ryans. Il fait partie là de ces coachs qui bossent bien et qui posent des bases.
Ouais, ils bossent bien parce que sur les 3 matchs, donc bien sûr, les Texans ne les ont pas tous gagnés, mais ils n'ont jamais été ridicules sur aucun des 3 matchs depuis la saison, malgré être l'équipe ou la deuxième équipe la plus jeune de la ligue. Donc ça aurait pu être une équipe qui part un peu dans tous les sens, et globalement c'est quand même cohérent ce qu'il propose. Son attaque fonctionne bien, sa défense, on l'a vu sur ce match, on commence à sentir quand même une empreinte d'Emeco Ryans. Il y a le rookie Will Anderson qui, alors là, pas fait de sac, mais bloque un field goal pour la victoire, enfin qui aide à la victoire. Bon, voilà, les jeunes joueurs performent, c'est cohérent, c'est solide. Je trouve que c'est plutôt encourageant pour le coach aussi. Ouais.
Lucas, c'est une agréable surprise. Et comme le disait Raphaël, il y a Stroud d'un côté, il y a Anderson de l'autre. Les bases sont vraiment bien posées parce qu'on a parlé des erreurs ou des problèmes de l'attaque de Jacksonville, mais ils y participent bien quand même.
Oui, clairement. Clairement, pour l'instant, on les attendait pas forcément à ce niveau-là. Encore une fois, je ne sais pas si ça va jouer les playoffs à la fin de la saison ou en tout cas se battre pour les playoffs. On est peut-être un peu loin, mais ça bat une équipe en tout cas qui envisage les playoffs, qui était en playoffs l'an passé, et ça les bat nettement en plus. Donc pour moi, oui, en effet, ils sont dans des temps de passage supérieurs à ce qu'on imaginait après 3 matchs, avec un nouveau quarterback, avec un nouveau coach. Voilà, je le dis un peu tout à l'heure, je l'ai dit, le seul petit bémol pour moi, c'est peut-être le jeu au sol, qu'il faudra peut-être un peu plus développer, parce qu'on se rappelle, Pierce l'an passé avait été très bon quand il était arrivé, on le voit un peu moins. Les Jags ont été bons dans ce secteur-là, ils les réduisent à 86 yards, je crois. Sur ce match-là, je pense qu'il va falloir le développer parce que Stroud, il va pas pouvoir faire ça tous les matchs en tant que rookie. On sait, il y a des hauts et des bas. Et dans un match où il va être un petit peu plus bas, pour que cette équipe reste à un niveau correct, il faudrait que le jeu au sol soit une vraie arme. Mais il y a les joueurs, il y a Singletary aussi. Je pense que c'est plus du développement qu'il faut faire et ça va dans le bon sens.
C'est vrai qu'il est devenu très discret, Damien Pierce. Il y avait eu une blessure dans la fin de
saison. Oui,
dernière,
il a été blessé. Ça lui
a un peu de mal à revenir. On termine avec une petite stat et anecdote. Andrew Beck est le joueur le plus lourd de l'histoire à avoir retourné un kick-off pour un touchdown, donc sur les 50 dernières années. Il est à combien d'après vous? On fait au juste poids.
À combien le poids? Parce que j'ai vu sa vitesse aussi en miles par heure. J'ai vu qu'il
C'était
avait
une
été
vingtaine, non?
à 20, ouais, 20 miles par heure. Je ne sais pas combien ça fait en kilomètre-heure, mais. C'est pas mal, je dirais en
Alors,
poids.
Je cherche la vitesse pendant que vous me cherchez le poids.
Ah, 94.
Bon, non,
ah,
plus, on est en
ouais,
effet
allez,
le
moi,
plus
je dirais
lourd.
108.
On est encore plus haut, on est à 115,6 kg pour Andrew Beck. Et sachez qu'il a donc couru, tu disais, Lucas, à 20 miles par heure, ça fait 32 km/h.
Ouais, vaut mieux, pas mal, hein. Vaut mieux s'écarter de devant. Je peux vous dire,
ouais,
115 kilos.
115 kilos à 32, ça commence à faire pas mal. Les Packers 18, Saints 17, c'est notre prochain match. Messieurs, la tuile pour les Saints qui menaient 17-0 dans le dernier quart, ils perdent 18-17. Notamment parce que Derek Carr est sorti avec une entorse acromioclaviculaire, c'est bon pour la prononciation, et que l'attaque n'a plus rien fait avec Jameis Winston. Winston qui n'a pas fait d'erreur terrible, mais au moins il a donné un aperçu peut-être de pourquoi les Saints ont bien fait de faire venir Derek Carr, parce que on dirait que lui va quand même grappiller quelques points quand il faut. C'était pas incroyable 17-0, mais au moins il fait le minimum, Raphaël.
Oui, c'est ça, c'est comme tu dis, c'était pas extraordinaire, mais on voit quand même qu'il y a un avant et un après blessure de Derek Carr offensivement du côté de New Orleans. Alors oui, Jameis Winston n'a pas fait des boulettes comme il a pu en faire par le passé et nous habituer à en faire, mais il a absolument pas été capable de faire vraiment avancer cette attaque. Alors, lui mettre la défaite que sur ses épaules, c'est peut-être un peu extrême et on peut parler de plein d'autres choses, mais malgré tout, cette attaque avance plus. Il gère, la ligne offensive est en difficulté et lui gérait encore moins bien que Derek Carr une ligne offensive en difficulté. Et ça fait la différence, ouais.
Lucas, c'est dur de lui mettre un peu ça sur le dos, mais en même temps, il aurait pu faire un peu plus.
Oui, je pense que c'est frustrant. Alors, c'est difficile de faire du football fiction, mais je pense que si Carr ne se blesse pas, je pense que cette équipe-là gagne le match. C'est vrai que bon, il y a beaucoup de si. On ne sait pas ce qui aurait pu arriver parce que les Packers, on en parlera peut-être plus tard, mais ont été très bons sur la fin de match notamment. Mais c'est vrai que Winston, en fait, on est partagé entre le fait que on comprend pourquoi c'est pas le titulaire. En revanche, on comprend pourquoi ils l'ont gardé en remplaçant parce que il va peut-être, si Carr est blessé sur plusieurs semaines, on ne sait pas encore, il va peut-être pouvoir assurer un intérim à peu près correct. À minima, il n'a pas envoyé d'interception, mais c'est vrai que c'est limité, c'est plus limité et limitant qu'avec Derek Carr sur le début du match.
Ils en reparleront dans la preview, mais a priori, ESPN dit que ce sera pour Jameis Winston cette semaine et que Derek Carr sera incertain pour la suite. Donc, tu disais, il n'a pas lancé d'interception pour le moment. Il n'a pas eu beaucoup de temps aussi.
Oui, ça peut arriver très vite.
Alvin Kamara revient quand même aussi la semaine prochaine, mais ça aussi, ils en parleront dans la preview. À sa décharge, il n'est pas aidé. Il y a quand même un field goal de 46 yards qui est manqué en fin de match, qui aurait probablement aussi donné un gros coup de boost aux chances de victoire des Saints. Donc ça passe à pas grand-chose. C'est dommage quand même pour une équipe des Saints qui avait très bien défendu jusqu'à ce que Jordan Love se réveille en fin de match. 22 sur 44 pour lui, 259 yards, un touchdown, une interception, mais vraiment belle fin de match. Ils finissent avec field goal, touchdown pour les trois dernières séries, avec une conversion à deux points au passage. Est-ce que c'était convaincant pour Jordan Love, même s'il y a eu ce temps de réaction, on va dire? C'était sa première en Lambeau Field, ils avaient joué à l'extérieur les deux premiers matchs. Raphaël, plutôt convaincu par cette première à domicile?
Convaincu, c'est peut-être un grand mot vu la prestation globale de Jordan Love, hein. Il y a quand même trois cartons qui sont très très moyens, donc il m'en faudrait un peu plus pour être convaincu. Mais par contre, peut-être plus un motif d'espoir, le fait de se dire que c'est ce jeune quarterback, cette équipe aussi assez jeune, hein, les armes autour de lui, etc., arrive à gagner ce genre de match finalement. Là, tu m'aurais donné le scénario, enfin le score sans me dire, et tu m'aurais donné le scénario sans me dire laquelle des deux équipes avait fait la remontée un peu façon vétéran. Je t'aurais dit, c'est les Saints qui ont gagné à l'arraché en mode vétéran. Or, il s'avère que c'est Green Bay, donc je trouve ça plutôt positif, encourageant là-dessus, pour mettre la fleur sur le fait que il est une jeune escouade, mais qui reste dans le match, qui est combattante et qui peut renverser la vapeur. Donc ça c'est clairement un bon signe, et c'est là-dessus où je serais peut-être un peu plus convaincu que sur la prestation globale.
Après, c'est vrai que quoi qu'il arrive, c'est mieux d'avoir un quarterback qui est moyen sur trois quarts-temps mais qui est très bon dans le quatrième, qu'un quarterback qui est bon pendant trois quarts-temps mais qui te plombe le match dans le quatrième. J'enfonce une porte ouverte, mais c'est vrai qu'au moins on a vu ça. C'est pas un quarterback rookie, mais c'est un quarterback qui est très jeune en NFL. Il n'a pas vu encore beaucoup le terrain, et forcément on sait qu'il y aura des hauts et des bas, mais c'est vrai que quand les hauts arrivent dans le quatrième quart-temps, c'est toujours mieux. Son drive de la gagne notamment, il y a de très belles passes, il y a des passes vraiment qui sont impressionnantes, où quand on les voit, on se dit, ah oui, s'il est capable de faire ça, c'est vrai qu'il va falloir être capable de le faire sur la durée d'un match, mais s'il est capable de faire ça, c'est très bien pour les Packers. Et puis il remporte ce match, c'est pas anodin de gagner un match en NFL, ils sont à deux victoires, il y avait beaucoup d'absents en plus, c'était pas un match gagné d'avance.
De D'autant qu'il est aussi le meilleur coureur de son équipe hein, ce dimanche, puisque Aaron Jones n'était pas là. Et donc Jordan Love gagne 39 yards et inscrit un touchdown au sol. Donc il a quand même été très très présent. Ils sont à 2-1 désormais, les Packers. On parlait de Texans en avance sur leur temps de passage. Je ne sais pas si tout le monde s'attendait à des Packers forcément dans le positif après trois matchs, après le départ d'Aaron Rodgers. Lucas, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, bah, la défense, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même très bien. Le pass rush notamment, Rashan Gary a été incroyable. La défense a été très bonne. Elle prend que 17 points. C'est pas non plus incroyable. Ils ont maintenu, parce qu'il y a 17-0, ils ont maintenu quand même pendant trois quarts temps l'équipe dans le match. Je pense qu'il fallait le noter.
De toute façon, je complète, mais je pense que c'est le genre de scénario qui va permettre à Green Bay de gagner des matchs. Enfin, c'est un peu le scénario idéal, une défense qui maintient l'équipe adverse à portée de tir de l'attaque. Et tu sais que t'as pas encore une attaque qui est capable d'aller gagner des festivals gagner des matchs festivals offensifs. Donc voilà, il te faut une défense qui maintient l'adversaire autour de 20 points et t'as a priori du coup suffisamment de niveau en attaque pour aller chercher cette barre là. Donc scénario plutôt parfait de ce niveau là et c'est quelque chose qu'il faut essayer de reproduire une bonne partie de la saison à mon avis.
On passe du côté de Cincinnati où les Bengals recevaient les Rams, victoire 19-16 dans le match dans la nuit de lundi à mardi. Messieurs, est-ce que Zach Taylor est le nouveau Andy Reid? Voilà, attention, je m'explique. 49 passes, quand ton quarterback est sur un mollet, est-ce bien raisonnable? Surtout beaucoup de passes dès le début. Et Joe Mixon, qui n'est pas forcément un mauvais joueur en théorie, mais qui depuis deux ans a l'air d'être un peu à l'abandon. Donc je ne sais pas, cette métaphore me plaisait, non pas qu'il y ait une quelconque ressemblance physique, parce que je pense qu'on ne puisse pas faire beaucoup plus différent que les deux, mais voilà, est-ce qu'on a une équipe, en tout cas, qui est en train de devenir très caricaturale, un peu comme, encore une fois, des fois, elle pouvait l'être en direct, que ce soit avec les Eagles ou les Chiefs, c'est-à-dire j'ai mon quarterback et je vais passer.
Ce qui est vrai, c'est que ça pose vraiment question l'absence de jeu au sol. En plus, je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, on le voit pas beaucoup. Joe Mixon, bon, il a 19 courses sur ce match, mais c'est vrai qu'on pouvait imaginer qu'il en ait plus. On le voit pas beaucoup, mais quand il court, j'ai pas l'impression que ça soit un running back qui ait perdu sa vitesse ou qui soit mauvais. Des fois, ça peut arriver sur des quarterbacks, mais là, je sais
en
pas.
En fait, c'est pour ça que je pose la question, c'est que ça a l'air d'être un choix. C'est-à-dire que même dans les choix de recrutement, le jeu au sol a pas l'air d'être une priorité, même pas une priorité, mais même ça a pas l'air d'être un secteur qui les intéresse beaucoup, quoi.
Alors que ça semble fonctionner et qu'en plus, ou à minima, ça équilibre un petit peu l'attaque. Quand Mixon court, ça va un petit peu mieux. Et puis là, en plus, tu l'as dit, Burrow était un petit peu sur une jambe ou blessé, pas forcément à 100%. Ça lui enlèverait un petit peu de pression. Burrow, c'est la star, c'est le mec qui va porter l'équipe, forcément. Mais je pense pas qu'il soit contre le fait d'avoir un peu moins de pression.
D'autant qu'il a déjà été blessé plus tôt dans sa carrière. Enfin, c'est en train de devenir un thème, Burrow blessé qui doit lancer beaucoup de passes. Je ne sais pas si c'est la meilleure chose pour lui, même sur le long terme. Raphaël, pardon, est-ce qu'on a raison de s'inquiéter ou est-ce que non, c'est l'identité de cette équipe et c'est comme ça?
Alors, j'ai envie de te dire que c'est un peu les deux. Je comprends l'inquiétude, mais je crois que c'est un choix clair. C'est une décision sportive, de coaching, d'idées. Ils ont décidé de charger le jeu aérien et d'aller jusqu'au bout avec ça. Ça leur donnera tort ou raison dans les années, semaines à venir, on verra. Mais j'entends, c'est vrai que ça peut être mieux de faire courir un peu plus Mixon, ne serait-ce pour pas être trop prévisible. Ça, c'est important parce qu'en soi, les performances de Mixon sont... Enfin, là, en tout cas, n'est pas non plus incroyable parce que si t'enlèves sa grosse course de 14 yards... Il est 18 portées, 51 yards, ça fait même pas 3 yards par portée. C'est pas non plus... tu fais pas bouger les chaînes avec ça. Mais,
non, mais il faut bien y aller. Quoi.
Mais il faut y aller. Il faut quand même aller jouer au sol de temps en temps pour ne serait-ce que ton adversaire charge un peu la boîte et s'attende pas à ce que tu fasses que de la passe. Je l'accorde. Maintenant, c'est
un choix. Il s'en sort du coup un peu au raccro hein. Oui. En attaque, le Burrow est à 259 yards, il lance pas de touchdown, il lance une interception. La bonne nouvelle, c'est que Jamar Chase, il était à fond, il a pris 12 ballons pour 141 yards. Mais c'est une vraie victoire défensive des Bengals, c'est la vraie satisfaction de cette nuit pour eux. 6 sacks, une pression constante sur Matthew Stafford qui va bien, hein, mais là qui était vraiment sous pression, qui a été intercepté deux fois en plus de prendre 6 sacks. La bonne nouvelle de ça, Lucas, c'est que c'est une bonne défense. Il confirme, il y a Trent Dirksen qui est énorme, ça va en défense.
Oui, tu as donné toutes les statistiques et globalement, en effet, c'est une victoire défensive face à une attaque qui en plus fonctionnait bien, plutôt bien. Matthew Stafford a été très bon la semaine passée, il a été bien, bien muselé. Donc en effet, la défense a fait le travail. C'est bien aussi de voir les Bengals capables de gagner ce genre de match. On sait qu'ils ont été capables de le faire sur les années précédentes quand il le fallait. Burrow, encore une fois, est la star. Mais ça peut arriver un match de playoff où il est sur une jambe, où il est blessé, où on le maîtrise bien, et aller gagner. Alors les playoffs, ça sera plus compliqué, les adversaires seront peut-être plus difficiles à manœuvrer, mais c'est bien de savoir dès la troisième semaine qu'on a une bonne défense.
Les Rams, t'es limité au sol, pas d'exploit pour cette fois. Tu le disais, ça tournait bien, Lucas, mais voilà, on est juste sur un match, Raphaël, où la défense était trop forte, c'était trop compliqué.
C'est devenu compliqué à partir du moment où ils ont vraiment pris l'eau sur la ligne offensive. Hein. Stafford a été souvent sous pression. Il a fait une interception vraiment pour sa pomme, mais bon, ça, à la limite, c'est presque du Stafford un peu classique. Il y a toujours de temps en temps des petites. Ça a toujours été son jeu. Je pense que là, leur difficulté, ça a été cette incapacité à établir le jeu au sol. Sur les deux premières semaines, on avait quand même un gros jeu au sol, un très bon Kyren Williams qui aidait soulager Matthew Stafford. Là, ça n'a pas du tout été le cas, et donc je pense que, et ça s'est vu notamment en red zone, hein, ils font 5 passages en red zone, ils repartent qu'avec un seul touchdown sur leur passage en red zone, alors qu'avant ce match, ils étaient la meilleure équipe de la ligue sur les touchdowns quand l'équipe était en zone rouge dans les 20 derniers yards. Donc voilà, cette difficulté pour être bon au sol les a plombés à la fin, et plus accident face à une grosse défense que vraiment catastrophe pour la suite, quoi.
On passe aux Ravens et aux Colts, une des surprises de la semaine, 19 pour les Ravens, 22 pour les Colts, après prolongation. Je suis un peu content parce que celle-là dans le fauteuil, quand on listait les blessés juste avant le match, j'ai dit attention à la surprise parce qu'il manque beaucoup de monde du côté de Baltimore. Field goal de 53 yards en prolongation pour Matt Gay pour donner la victoire aux Colts. Justin Tucker avait échoué à 61 yards pour la gagne en fin de temps réglementaire. C'est pas une victoire imméritée pour les Colts qui n'ont jamais été distancés dans ce match, ils ont bien bousculé l'attaque de Baltimore. Lamar Jackson ne lance pas de touchdown, il se débrouille au sol tout seul en étant le meilleur coureur avec deux touchdowns. Mais belle prestation défensive aussi de Indianapolis, Raphaël.
Oui, belle prestation défensive, effectivement. Alors après, je sais pas à quel point c'est eux qui ont totalement déstabilisé l'attaque de Baltimore. Je sais pas à quel point l'attaque. Alors,
est-ce que Lamar Jackson était trop esselé, c'est ça que tu veux dire?
Entre autres, et le jeu au sol. Enfin, au final, ils ont galéré à courir et à obtenir des petits gains qu'ils ont l'habitude d'obtenir sur des troisièmes tentatives, sur des quatrièmes tentatives. Et là, ils ont donc mérite malgré tout la défense d'Indianapolis. Bon, une partie de moi pense qu'un Baltimore à 100% en termes d'effectifs aurait un peu plus dominé ce match. Mais ça n'existe pas. Donc
Baltimore à 100%, ça n'existe pas.
Non, c'est vrai, ça n'existe pas tout court. Donc voilà, effectivement, comme tu l'as dit, bravo à cette défense d'Indianapolis et au coaching qui tire pas mal de cette équipe encore une fois.
Oui, c'est vrai que Lucas, le coaching là de Shane Steichen pour Indianapolis, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'en défense, ils ont accrocheur, en attaque, c'est de la course, des passes courtes. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, il fait bien avec ce qu'il a.
Ah, clairement, c'est pas flashy. Ça, c'est vrai qu'on n'est pas au plafond. Quand on regarde ce match-là, on se dit pas, cette équipe, elle est incroyable, mais ça gagne. Comme tu l'as dit, le plan de jeu offensif, il manquait le rookie. On joue avec Gardner Minshew, on sait ce que ça donne. Il a été égal à lui-même, mais ça a été suffisant. La défense, je serais un petit peu plus enjoué que Raph parce que je l'ai trouvé vraiment très agressif, certes. Les Ravens avaient beaucoup de blessés comme d'habitude, mais j'ai trouvé la défense très agressive. Il y a 4 sacs quand même pour la ligne défensive des Colts, et on sait à quel point c'est difficile de saquer Lamar Jackson. C'est peut-être égal à 6 ou 7 quand on connaît le quarterback des Ravens. Donc en effet, c'est un bon point, c'est une victoire. C'est vrai que c'est une équipe qui, encore une fois, à l'instar des Texans dont on parlait tout à l'heure, vise peut-être pas les playoffs de suite, qui est dans une progression, une courbe, mais quand on voit qu'ils sont capables d'accrocher ces matchs-là. Alors, il a fallu que tout tourne bien aussi, quand même, mais c'est une bonne nouvelle.
Raphaël, tu partages, non?
Ouais.
Tu te sens plus perplexe sur la défense?
Non, comment dire, effectivement, je sais pas sur la défense. J'attendrai de voir un peu, encore un peu, mais moi, c'est plus sur l'attaque. On a quand même un coach qui a dû changer son cahier de jeu depuis le début de la saison, entre la blessure de Jonathan Taylor, le coureur, entre Anthony Richardson qui sort la semaine dernière. Il faut tout réadapter. Et ils arrivent à manœuvrer une défense de Baltimore qui est une des meilleures de la ligue. Enfin, avant ce match-là, Baltimore avait pris 138 yards au sol en deux matchs. Là, ils en font 139. Baltimore blitz à fond. Du coup, on fait lancer à Minshew très vite des petites passes courtes. Enfin, je trouve que c'est très, très bien coaché en attaque. La défense suit le pas pour le moment, mais j'attendrai peut-être encore un peu avant de m'enthousiasmer sur cette défense. Mmh. Mais en tout cas, je rejoins Lucas sur le fait que là encore, Indianapolis me semble être en avance sur ses temps de passage, que ce soit en attaque ou en défense, en tant qu'équipe de manière globale, quoi.
On a des bonnes surprises dans le bas de tableau pour l'instant cette année. En parlant de défense, Jets 10, Patriots 15, celui-là il y en avait. Les Jets n'ont rien fait en attaque pendant 3 quarts temps, leur défense les a gardés dans le match. Malgré ça, ils ont eu 3 fois le ballon pour passer devant en fin de rencontre. Résultat, safety, échec sur 4ème tentative et un dernier drive jusqu'à la fin du chrono, une passe désespérée qui ne réussit pas. Lucas, tu étais au commentaire du coup sur 6 plays, donc celui-là t'as pu en profiter à fond. Est-ce que profiter est un mot un peu galvaudé?
Oui, je pensais que tu allais commencer en parlant de bas de tableau. Mais c'est vrai que profiter, alors
oui aussi.
On a vu des belles défenses. Maintenant, c'est vrai qu'on a vu des attaques, et une notamment, même si l'autre, on en parlera peut-être, n'a pas enjoué particulièrement. Mais celle des Jets, ça a été très compliqué. Il y a eu un drive qui les a maintenus un petit peu dans le match ou qui a laissé un petit peu d'espoir, mais c'est tout. Et c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est très très compliqué. Zach Wilson, on parlait de CJ Stroud tout à l'heure, qui était très bon dans la poche, qui avait des bonnes lectures et qui était capable de sortir de situations avec des lectures et tout ça. On est sur totalement l'inverse. On est là sur totalement l'inverse. Alors oui, c'est Bill Belichick en face. Oui, il a tendance à rendre la vie compliquée aux quarterbacks, notamment quand ils sont inexpérimentés, et notamment Zach Wilson. Mais c'est vrai que celui-là, c'est pas lui qui disait. Je crois que c'est Sam Darnold qui disait je vois des fantômes. Il avait été une fois pris au micro en disant je vois des fantômes face à la défense des Patriots, mais je pense que pour Zach Wilson c'est pareil, et tout le public des Jets en a marre, on les a entendus siffler, re-siffler leur équipe, c'est compliqué.
Bah là, qu'est-ce que tu veux, enfin, de toute façon ils peuvent plus faire que ça, ils sont dans un cauchemar, ils savent ce qui va se passer. Tu disais son nom, ils vont en être à regretter Sam Darnold, hein, presque.
Mmh. Honnêtement, ça pourrait pas être forcément pire, hein. C'est compliqué.
Maintenant qu'il a été réparé par Kyle Shanahan en un été, moi je dis tu fais un échange pour Sam Darnold. Hein. Ouais, tu vois, la boucle est bouclée, tu le fais revenir, il te sauve, ce serait incroyable. Bon, en tout cas, la ligne de stats de Zach Wilson, c'est 18 sur 36, 157 yards, 3 sacks, aucun touchdown lancé, aucune interception. Raphaël, il n'y a plus rien à dire de plus, on va pas faire toutes les semaines une variation sur le même thème. Écoute, Zach Wilson n'est pas bon, quoi.
Ouais, je me rappelle l'an dernier avoir dit dans un podcast des bons mots sur Zach Wilson, tu l'avais isolé en pastille audio pour teaser sur les réseaux sociaux dans la semaine, je m'étais pris un flot de remarques là-dessus, et j'ai l'impression qu'un an après, j'étais quand même pas très loin du compte sur le niveau général de Zach Wilson. Et les Jets, de toute manière, ne pourront pas faire mieux tant qu'il est là. Enfin, il y a des jeux où t'avais Garrett Wilson, le pauvre, qui était esselé tout seul, qui attendait la balle pendant 20 minutes, et Zach Wilson était incapable de le voir. Donc, ils feront pas mieux, et c'est dommage parce que franchement, en plus, ce match était prenable parce qu'en face, les Patriots, on va y venir. Mais alors, autant défensivement, bon, voilà, on savait que ça allait être de bon niveau, c'est de bonne facture, il y a une bonne ligne défensive. En plus, il y a Christian Gonzalez, le rookie, qui est pas mauvais, qui est très intéressant. Mais l'attaque, c'est mieux que l'an dernier, mais qu'est-ce que ça reste poussif encore.
Je termine juste le dossier Zach Wilson en vous disant qu'évidemment, il a la pire évaluation de tous les quarterbacks de la ligue au moment où on se parle.
Et il pourrait faire la troisième, ça pourrait être la troisième année de suite, hein.
En revanche, il faudra peut-être se poser la question de Nathaniel Hackett aussi, parce que c'est vrai que
c'est
une vraie question. Il y a un drive où on a l'impression qu'il décide d'ouvrir le cahier de jeu et ça se passe plutôt bien, et puis derrière, plus rien. Donc c'est une vraie question.
Hackett, il venait pour Rodgers, hein, donc là ça doit être panique à bord. Hein, depuis, il n'est pas venu pour ça, lui. Hein.
Il doit dire on peut pas, ça c'est pas
ça,
possible.
Y a, ouais. Non.
Ah ouais, là ça doit être compliqué. Bon, après en plus on a un soutien des dirigeants, du coach, etc., qui est en train de tourner quasiment au déni, donc c'est d'où les sifflets, hein. Je pense que les sifflets sont presque plus pour Wilson que pour la direction, en fait, hein,
oui.
À ce niveau là parce qu'ils sont en train de gâcher un beau groupe, là c'est terrible ce qu'ils sont en train de faire, ils sont blindés. Donc après, pour les Patriots, en effet, Raphaël le disait bien, il n'y a pas de quoi pavoiser en attaque. L'homme du match, c'est plus Matthew Judon, il provoque un safety et deux sacks. Lucas, c'est un peu lui le franchise player depuis l'an dernier, non, Matthew Judon?
Ah oui, si on regarde tout l'effectif, il y a une bonne défense et c'est peut-être l'escouade la meilleure entre les deux. C'est clairement l'escouade la meilleure entre les deux. Et quand on prend le meilleur joueur de cette escouade-là, c'est très certainement Mathieu Judon. Il a été un petit peu plus en dedans en fin de saison dernière, mais il avait fait un très gros début de saison. Là, il est reparti sur un bon début de saison. Après, il y a Christian Gonzalez qui est très bon, parce que Raph parlait de Garrett Wilson qui était de temps en temps ouvert, mais il a quand même été aussi bien défendu en 1 contre 1 par un rookie, on le rappelle. Mais c'est vrai que, en tout cas, le franchise player, si c'est là où on va, il n'est pas en attaque. Hein, parce que là, le joueur qui prend le plus de yards, je crois que c'est Ezekiel Elliott, avec 80 yards sur le match en 2023. Donc voilà,
c'est un peu ce que tu disais d'ailleurs au début, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une énorme différence, il y avait deux bonnes défenses et une attaque un peu meilleure, mais c'est vrai que, en fait, c'est le jeu au sol quoi, qui fait la différence pour les Patriots. Ouais. Ils font 157 yards au sol et ça leur apporte un peu plus, quoi.
Oui. Mais après, voilà, ils arrivent plusieurs fois dans le. Je crois qu'ils arrivent 7 fois dans la partie de terrain des Jets. Ils en ressortent qu'avec 13 points. Il y a un touchdown sur un bel appel de jeu de Bill O'Brien et surtout sur une erreur défensive des Jets. Ça est arrivé rarement, mais ils en ont profité. Mais au-delà de ça, il y a pas grand-chose. C'est un peu mieux que l'an dernier, Raph le disait, mais c'est encore poussif.
Breaking news, hein, il y a une signature au poste de quarterback pour les Jets. Dans le practice squad pour l'instant, Trevor Siemian.
Ah bah, c'est bon alors. Bon bah, c'est bon. Allez.
En vrai, on en est au point où c'est mieux. Hein.
Oui.
Ouais, j'attends quand même de voir sur le terrain, mais.
Alors, il y a un truc d'ailleurs que je découvre là dans le tweet d'Adam Schefter, hein, d'ESPN, mais. Je le pensais beaucoup plus vieux que ça, Trevor Siemian, depuis le temps qu'il se tire des bancs.
Oh.
Il a 31 ans.
Oh ouais, ça me.
Moi, ça colle.
Ok, moi je le voyais, je sais pas, je
non,
commençais
ça colle
à.
Bien, ouais.
C'est quand même un joueur qui a débuté 30 matchs hein, en NFL. Hein.
C'est vrai, autant.
Ouais.
Ah ouais, 30, dis donc. Ok.
Bah, en fait, il a deux saisons où il blinde. Hein. Il en démarre 14 en 2016 à Denver et 10 la saison suivante, toujours à Denver. Ouais. Il a déjà joué pour les Jets en 2019. Il a débuté un match pour eux, figurez-vous. Et il a débuté 4 matchs la saison suivante pour New Orleans en 2021. Et il a débuté un match pour les Bears l'an dernier. Il fait partie de ces joueurs qui toujours. Il a débuté des matchs tous les ans, en fait, hein, depuis 2016. Il trouve toujours moyen d'en gratter un. Non, il n'a pas joué en 2020, pardon, et en 2018. Et donc, il vaut quoi? 42 touchdowns pour 28 interceptions. Excusez-moi, mais c'est un step-up de fou, là.
Non, mais.
On se rappelle qu'on a laissé partir Mike White aussi. Hein,
c'est vrai.
Les Jets, alors, c'est pas non plus flamboyant, mais on s'était posé la question l'année dernière si c'était pas mieux que Zach Wilson.
Ouais. Ouais, non, mais là, ça va chanter des Trevor Siemian hein, dans les films de New York, dans les jardins. Bon, je reviens juste sur.
C'est un rire nerveux.
Ouais, pour finir avant notre petite pause, messieurs, mais donc Mac Jones, 15 sur 29, 201 yards, un touchdown, 0 interception. Voilà, je vois Raphaël qui fait pfff avec. Voilà, il est.
Ouais.
T'as pas l'air. Voilà, personne n'est convaincu encore par lui non plus. Alors, c'est pas évidemment aussi abyssal que Wilson, mais ça continue de plafonner, quoi.
Oui, ça plafonne. Je le trouve pas forcément très bien aidé. Là, il avait une ligne offensive en difficulté. Il a quand même une escouade de receveurs. On l'a dit, on l'a redit. Bon, je veux dire, je dis pas que c'est un grand quarterback, mais peut-être tu lui mettrais un vrai receveur numéro 1. Enfin, il y a un moment, en fait, cette équipe en attaque manque de talent de manière tout court, en fait. Et la NFL, je veux bien le coaching, les appels de jeu, on peut en reparler, on peut débattre. Je pense qu'il y a aussi un moment où il y a le talent. Et quand tu mets des joueurs de talent à des positions clés, ça t'aide à gagner des matchs, peu importe le coaching, peu importe. Et à l'heure actuelle, les Patriots n'ont pas de joueurs de grand talent en attaque, en fait. Et on peut tourner autour du pot, tourner ça dans tous les sens. Ça manque à la fin. Enfin, c'est...
Lucas, oui, c'est une question de talent aussi.
Oui, il y a une question de talent. Après, ils affrontaient une grosse défense aussi. On a vu que c'était l'une des rares défenses qui a pu notamment un petit peu enrayer la machine des Bills pas tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on se rappelle, ils avaient réussi à mettre à mal Josh Allen et qui n'est pas Mac Jones, mais en effet, c'est un peu mieux que l'an passé. Je pense que Bill O'Brien a un peu plus d'idées, un peu plus d'expérience aussi. On a peut-être l'espoir que ça va monter en puissance, j'en doute, parce qu'après, on va atteindre un plafond qui ne pourra pas être percé à cause du manque de talent, comme Raph l'a dit.
Petite pause et on se retrouve pour la suite du débrief.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
J'avais une grosse hésitation, mais je sais pas avec les règles. Non, vous inquiétez pas, je vois que vous faites des têtes bizarres, les gars. On est toujours à l'antenne, hein, ne vous inquiétez pas. Mais j'avais une petite hésitation parce que je ne sais plus où on en est maintenant avec les règles pour les Spotify et les machins sur lesquels on est diffusé. Parce que avant, en fait, j'étais sûr que je pouvais faire ça. Mais maintenant, je sais plus si j'ai le droit.
Ah.
On verra si on se fait striker.
On voit que Raph, il a pas bossé. Hein, parce que moi, dès la première note, j'ai compris où on allait. Hein. On voit que Raph, il a pas trop.
Ouais, désolé, moi, je suis assez has-been en termes musicaux, désolé.
Alors, moi, je mets ça parce qu'à la base, je m'en fichais un peu. Mais comme je vois que ça trigger tout le monde et qu'on parle de Taylor Swift, ça me fait beaucoup rire d'en parler. Je comprends pas pourquoi les gens sont pas capables de se détendre. Il y avait Taylor Swift au stade, remettez-vous, on a le droit d'en parler, c'est rigolo. Ça ne veut pas dire qu'on est plus un site de football américain ou que ça renie tout. Enfin, on a le droit de s'amuser un petit peu. Et en plus, on a fait un article buzz. J'ai coupé Taylor, excusez-moi. On a fait, à une époque, on faisait des articles buzz tous les jours sur TDA. Hein. on voit les anciens du site, parce que les anciens du site ne seront pas étonnés qu'on parle de Taylor Swift. À une époque, on parlait d'Olivia Munn, on parlait de Katy Perry, on parlait de machin. Bref, pourquoi on a mis Taylor Swift? Parce qu'il y en a peut-être qui s'en foutent vraiment et qui, au lieu d'aller sur les articles pour dire on s'en fout, ils passent juste à la suite. Tu vois. Taylor Swift était donc dans les tribunes de ce match entre les Chiefs et les Bears, 41-10, c'est peut-être pas plus mal qu'elle soit là parce que ça a apporté un peu d'action. Les Chiefs ont punté sur leur première offensive. Chicago a donc été heureux 5 minutes. Ensuite, touchdown, 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 field goal, touchdown, 34-0 à la mi-temps. Bonne journée, c'est fini. Et c'est pour ça aussi que la télé américaine a fait beaucoup de plans sur Taylor Swift, hein, parce qu'il n'y avait pas grand chose à commenter dans la deuxième mi-temps de ce match, il faut le dire très sincèrement. Messieurs, est-ce qu'il y a quelque chose à sauver du côté de Chicago en ce moment? On a un Justin Fields qui est à 99 yards sur ce match. 11 sur 22, un touchdown, une interception. Ils ont gagné plus de yards au sol, 116. Ça, c'est très, 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 très dur pour une équipe qui était censée aller mieux pendant la pré-saison. Comme quoi, il faut vraiment se méfier de la pré-saison, hein, Lucas.
Oui, il faut se méfier de la pré-saison. Il y avait une équipe qui était censée aller mieux, ça ne va pas mieux du tout. Il y avait un quarterback qui était censé progresser, ça ne progresse pas du tout. Même au sol, je crois qu'il est limité à 47 yards. À la course, alors qu'on se disait que ça pouvait être quelque chose qui pouvait l'éviter de passer beaucoup et d'avoir des stats dans les airs. Honnêtement, il y a en effet pas grand chose. Offensivement, c'est vraiment faible. Défensivement, tu l'as dit, ils étaient à 41-0. Le coordinateur défensif est parti et a démissionné cette semaine. C'est Matt Eberflus qui a pris l'appel de jeu et ça n'a pas été beaucoup mieux. Il y a zéro pass rush. C'est vrai que cette équipe-là, quand on prend la totalité, alors ils affrontent le champion en titre, ok, mais c'est très faible.
Bah, ils prennent quand même 456 yards face à une équipe qui a dû s'arrêter de jouer au milieu du troisième quart, grosso modo. Donc, les Chiefs sont à 10 sur 14 en troisième tentative. Bon, je sais pas, il y a quelque chose à rajouter, Raphaël, sur les Bears. C'est difficile, là, c'est Matt Eberflus maintenant qui est en danger c'est... et on est là-dessus.
Oui, il est en danger. Le bateau est en train de couler, clairement. T'as l'air d'avoir de l'extra sportif, du sportif. La défense, ils devaient l'améliorer, elle s'améliore pas, parce qu'on parle de l'attaque, et à juste titre, hein, Justin Fields donne pas le sentiment de progresser, ne progresse pas, mais même cette défense donne rien, cette défense. Donc, à ce niveau-là, c'est compliqué pour tout le monde, et il va y avoir si en tout cas la saison continue sur ce rythme-là, il va y avoir un vrai dossier et un vrai champ de travail pour le general manager des Bears à l'intersaison, parce qu'il y a beaucoup de questions à se poser, enfin beaucoup de sujets, quoi.
C'est vrai qu'en vrai, les intrigues de ce match, elles étaient hors du terrain, parce qu'on a beaucoup parlé de Taylor Swift en rigolant, mais il y a quand même cette histoire qu'il y aurait eu un raid du FBI chez l'ancien coordinateur défensif des Bears, donc désormais ancien qui a démissionné. Je suis quand même assez curieux de ça aussi, hein, parce que j'aimerais bien savoir. Je suppose que le FBI se déplace rarement pour des contraventions impayées.
C'était pas pour le cahier de jeu, je pense. je pense que c'était pour l'arrêter, tout simplement.
Donc en tout cas, c'est l'ESPN qui a rapporté ça. On n'a pas plus de détails que ça. C'est assez étrange, bon, en tout cas. Du coup, est-ce qu'il y a vraiment des leçons de ce match pour Kansas City? Patrick Mahomes, c'est le quarterback le plus rapide de l'histoire à 25 milliards. Il a fait en 83 matchs. Le record était à 90 par Matthew Stafford. Donc il est quand même sur des bases assez rapides. La défense a été bonne. Tout va bien.
Oui.
Ouais, petite alerte sur Jawan Taylor qui prend beaucoup de pénalités depuis quelques matchs. Et en effet, dans un match là comme ça, ça peut passer inaperçu, mais dans un match où la moindre pénalité peut faire une grosse différence, il faudra voir.
Eh bien, très bien.
En tout cas, pour abonder dans ton sens, Alain, moi je trouve que c'est une bonne idée. Ça peut ramener des gens qui s'intéressent pas du tout au foot US, regarder le foot US. Si on peut, sur 10 personnes qui vont regarder, il y en a 8 qui vont dire c'est n'importe quoi. Puis s'il y en a 2 qui peuvent rester et agrandir la communauté, pourquoi pas. Donc c'est toujours sympa de voir ce genre de choses.
Tous les gens sont les bienvenus pour quelques motifs qu'ils découvrent. On est très bien. Et voilà. Et ça aurait été mieux que Cher à la mi-temps du Super Bowl. Hein.
Clairement.
Franchement, bon, là on est à 20 secondes d'un strike total de toutes les plateformes, je pense. Parce que à mon avis, Taylor, elle doit pas rigoler sur les,
non,
sur
pas,
les DMC machin.
Avis, là, tu vas vraiment avoir le FBI qui va venir chez toi et tu sauras pourquoi, mon gars.
En fait, le coordinateur des Bills, des défensifs des Bears, il a streamé sur Twitch avec Taylor Swift en fond.
Ouais.
Et en fait, c'est pour ça, il est dans une geôle maintenant. Ça doit être
on rigole, mais on sait pas ce qui s'est passé. Alors, ça se trouve, ça va être sordide. Non, je pense qu'il faut pas trop anticiper la rigolade.
De toute façon, ce podcast sera traqué. Personne n'entendra ce qu'on
entend. Ouais, non, personne n'entendra ce podcast. Mais non, mais en plus, je rigole. Mais c'est vrai que bon, il y a des choses plus graves dans la vie que Taylor Swift. C'est marrant. Je comprends pas pourquoi les gens s'énervent quand on fait un article de temps en temps sur Taylor Swift ou Katy Perry. Bref, Browns 27, Titans 3, 3 sacs et demi pour Myles Garrett. Derrick Henry limité à 20 yards en 11 courses. Ryan Tannehill saqué 5 fois au total. La défense des Browns n'est pas là pour trier les lentilles, messieurs. Ça fait des années qu'on les attendait au top. Là, ça y est, on y est, Raphaël. On est sur des Browns avec une défense dominante.
Des Browns avec une défense dominante, effectivement. Pour le moment, on a accordé le mérite à Jim Schwartz, hein, le coordinateur défensif. On le sait, hein, il n'a pas eu forcément beaucoup de succès en tant qu'entraîneur principal, mais coordinateur, il a souvent fait du bon taf, même si des fois il se perd dans quelques excès idéologiques, j'ai envie de dire, en termes de coordinateur défensif. Bref, c'est pas mal. On a un Myles Garrett absolument énorme qui transporte cette défense. Maintenant, je vais peut-être être le gars un peu tatillon. J'ai quand même envie de les voir face à des attaques plus fortes que celles qu'ils ont affrontées depuis 3 semaines. Sur les 3 dernières semaines, ils affrontent un Joe Burrow blessé sous la pluie, ils affrontent les Steelers, et ils affrontent les Titans de Tannehill et Derrick Henry cramé. Bon, voilà, j'attends la petite domination face à vraiment une attaque top de la ligue, où là je me dis, ok, ils ont passé un cap, voilà, c'est pour être un peu tatillon. Par contre, je laisserai Lucas enchaîner, mais la bonne nouvelle pour moi, c'est peut-être du côté de l'attaque.
Oui, alors juste quand même, parce que t'es tatillon au sens où c'est un match NFL et les Titans terminent avec 94 yards au total.
Oui.
Et puis on le voit, on a fait des matchs, je sais pas combien de matchs on a déjà débriefé, messieurs, mais il y a déjà 2 ou 3 surprises d'équipes qui se sont fait surprendre par alors qu'ils affrontent des adversaires qui sont censés être plus faibles. Cette défense-là, moi, 3 points encaissés, c'est quand même très fort, même si en face, c'est pas le top. Tannehill la semaine dernière avait été plutôt bon. Derrick Henry, il faudra peut-être se poser cette question-là aussi, mais il a été complètement annihilé. Les defensive backs sont très bons. Myles Garrett porte cette équipe-là. Franchement, moi, je suis convaincu. C'est vrai qu'il faut voir sur la longueur. On sait qu'une défense, c'est dur toute une saison, mais si on n'est pas convaincu là à Cleveland, on n'est pas souvent convaincu.
En fait, moi, j'ai envie d'être convaincu parce que ça fait tellement d'années qu'on attend Myles Garrett en leader d'une défense surpuissante. Qui, à chaque fois, on lui était là, mais ça ne suivait pas toujours autour, que ce soit au niveau du coordinateur ou des mecs autour. Là, tu as l'impression quand même que ça prend. Après, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut moduler ça avec le fait que ça montre aussi l'abysse dans lequel Tennessee est en train de tomber, parce que Bon, Tanné, il était correct en effet la semaine dernière, mais je pense que on avait vu la semaine d'avant que c'était déjà dur et la vérité se situe un peu entre les deux. Et je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une équipe de vétérans cramer comme ça, parce que c'est vrai que Derrick Henry c'est dur, DeAndre Hopkins, bon, c'est plus DeAndre Hopkins qu'on a connu. Ils font un peu de peine à voir, si c'est pas trop méchant à dire, mais ouais, c'est un peu tu vois les ombres quoi des joueurs qu'ils ont été, mais ça fait un peu mal. Bon, en tout cas belle victoire, on va pas enlever non plus aux Rams ce qu'ils ont réussi. Rebondir sur ce que tu disais, Raphaël, quand est-ce qu'ils vont ils vont jouer les Browns, ils vont jouer les 49ers. Ah, je vais y arriver. Ils vont jouer les Ravens puis les 49ers. Donc ça fera des beaux tests là. Mm,
tout à fait.
Si stop les 49ers, je suppose que tu seras convaincu.
Ah bah oui, j'aurais du mal à dire le contraire, oui.
Donc si j'ai bien compris, t'as dit il faut qu'ils limitent les 49ers à 94 yards aussi, c'est ça, pour que tu sois convaincu.
Non, c'est pas. Mais alors franchement, s'ils limitent les 49ers autour de 20 points, je serais bien convaincu.
Ouais, si t'es sous les 20 points avec les Niners, là, c'est clairement que tu commences à avoir une grosse défense. Pour l'attaque de Sean Watson est à 27 sur 33, 289 yards, 2 touchdowns, 0 interception. Meilleure évaluation depuis 2020. Les stats sont très très flatteuses. Dans les faits, c'était un bon test parce que pour une fois, l'attaque s'est quand même beaucoup reposée sur lui, même s'il y a eu les appels de jeu étaient équilibrés. Il y a 31 courses, 33 passes. Mais ça s'est beaucoup recentré sur lui parce que Nick Chubb n'était pas là. Lucas, il y a eu du très laid. Il y a eu notamment une passe en arrière, là, complètement vilaine, ambiance Jameis Winston. Il y a eu du un peu mieux. C'est pas encore flamboyant, mais il y a du mieux, on va dire.
Ouais, il y a eu beaucoup mieux quand même. C'est vrai qu'il y a encore des choses où on se pose des questions, mais c'est vrai que sur la durée du match, qui plus est sans Chubb, qui était quand même leur meilleur joueur offensif depuis quelques saisons, on peut le dire déjà, on sent qu'il a décidé de porter l'attaque désormais Watson. On a revu des Henry Cooper, on a vu des People Jones, on a vu Njoku. Non, c'est vrai que c'est plutôt convaincant.
Raphaël, convaincu par...
Convaincu, je sais pas, mais en tout cas, c'est quand même son meilleur match à Cleveland depuis son arrivée. C'est pas anodin non plus. Et c'est son meilleur match dans les conditions où tu l'as rappelé, où Nick Chubb n'est pas là. Enfin, on le sait que depuis plus de 3 ans maintenant, peut-être, l'attaque de Cleveland, c'était Nick Chubb, c'était le jeu au sol. Là, Nick Chubb est pas là, on lui confie plus les rênes et c'est son meilleur match. Je pense qu'en termes de dynamique, c'est pas inintéressant. Lucas l'a dit, il y a des défauts encore, c'est pas incroyable, mais bon, c'est quand même plutôt prometteur pour Cleveland.
On va passer au match entre les Commanders 3 et les Bills 37. Sam Howell a été sous pression sur 69% de ses tentatives de passe. C'est énorme, il a été dévoré par la défense des Bills, il lance 4 interceptions. Est-ce que c'est révélateur de son niveau? J'aime bien ces questions où à chaque fois vous devez me répondre un peu des deux. Est-ce que c'est révélateur de son niveau ou alors il a fait face à une énorme défense dans un grand jour? Raphaël.
Ah, là j'aurais tendance à dire que c'est vraiment qu'il pouvait pas faire grand chose. Honnêtement, quand tu prends la pression sur 70% des snaps, c'est quand même compliqué de dégager quoi que ce soit. Il a fait ce qu'il a pu avec la pression qu'il avait sur le dos. Là j'aurais du mal à trop lui mettre ça dessus. Presque j'en veux plus entre guillemets à son coordinateur offensif, finalement, de n'avoir couru que 10 fois, parce qu'à la mi-temps, ils sont que à 14-15 points de mémoire de retard. C'est pas...
ils sont à 16-0.
16, mais tu vois, c'est pas un écart insurmontable, 16-0 en mi-temps NFL, et pourtant, à la mi-temps, ils ont couru que 7 fois. Enfin, et au total, à la fin du match, ils courent que 10 fois. Je pense que quand ton quarterback prend la pression sur 70% des snaps, bah, cours un peu plus. Enfin, aide-le un peu plus, quoi. Voilà.
Ils prennent 21 points dans le dernier quart, en effet.
Oui, pour moi, c'est une vraie grosse défense en face. Et globalement, c'est un match qui s'est gagné vraiment dans les tranchées pour les Bills. Ils font 9 sacks, tu l'as dit. Il y a 4 interceptions, dont il doit y en avoir 2 ou 3 qui sont dues à une grosse pression sur le quarterback qui lance un peu comme il peut. Et puis de l'autre côté aussi, il n'y a aucun sack encaissé. Depuis le début de la saison, il avait encaissé 6 sacks, Josh Allen. Et il affrontait peut-être la meilleure ligne défensive, ou en tout cas celle qui avait enregistré le plus de sacks depuis le début de la saison. Et là, il n'encaisse aucun sac parce qu'il est capable de s'en sortir, mais aussi parce qu'il y a eu une très bonne protection. J'ai l'impression que les Bills sont de retour. Il y a eu ce premier match un peu compliqué, puis là, ils reviennent vraiment bien. Et là, vraiment, ils ont gagné là où ils avaient fait leur beurre depuis quelques années, avant que même Josh Allen arrive, où se développe vraiment les tranchées. Et c'est de bon augure pour la suite.
Un seul punt pour les Bills dans ce match, donc vraiment tranquille. Et tu le disais, les tranchées, 168 yards au sol, 5,1 yards par course et 2 touchdowns au sol, donc ils sont vraiment appuyés là-dessus. On sent que les Bills, à chaque fois qu'ils arrivent à s'appuyer sur le jeu au sol, même s'ils font mettre le ballon entre les mains de plusieurs coureurs, il y a quand même toujours quelque chose qui devient un peu inarrêtable dans cette équipe. Ils dominent les tranchées en défense, et quand ils arrivent à les prendre en attaque, ça commence à devenir injouable. Raiders 18, Steelers 23, victoire défensive des Steelers, victoire aussi face à des Raiders timides. Josh McDaniels qui prend un field goal à 2 minutes 22 de la fin alors qu'il est mené de 8 points et qu'il est à 8 yards de la end zone. J'imagine que Raphaël Masmejean a hurlé devant son écran.
Hurlé avec retard, hein, je vais pas mentir, je l'ai pas vu en direct, donc peut-être que ça avait atténué ma souffrance de voir cette action, mais oui, forcément, c'est quand même une décision assez étonnante. Et je crois avoir vu passer la stat hein, sur internet, mais depuis que, je sais plus exactement depuis quand, désolé, c'est pas très précis, mais en tout cas, c'était le premier coach depuis un certain moment à ne pas jouer une quatrième tentative alors qu'il y a que 5 yards à gagner dans les 2 dernières minutes pour aller gagner un match, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est preuve d'une timidité assez, assez consternante.
C'est l'anti-Staley.
C'est l'école Belichick. C'est l'école Belichick. Je pense que Belichick n'est pas loin de tenter quelque chose comme ça.
J'ai vu Bill Belichick être un des premiers à tenter une quatrième dans sa moitié de terrain contre les Colts il y a très longtemps, à l'époque Peyton Manning et tout ça. J'aurais pu dire l'année exacte, ça devait être 2008 ou un truc comme ça. Et à l'époque, c'était un peu révolutionnaire. C'était Belichick ose et tente, tu vois.
Oui, mais. Donc,
même
mais
Belichick,
je sais. Oui, bien sûr, mais désormais, la modernité veut qu'on tente des quatrièmes tentatives, même dans cette partie de terrain. On ne parlera pas des Chargers, mais Staley, il a failli encore faire quelque chose, on avait déjà parlé. Mais en tout cas, c'est vrai que. Pour le coup, je suis plutôt un défenseur de McDaniels habituellement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le critiquent. Je vais avoir du mal à trouver quelque chose pour le défendre là. C'est difficilement compréhensible. La suite lui a donné tort. Et globalement, la saison est en train de lui donner tort. C'est compliqué, oui.
Bah, et puis en plus, tu joues les Steelers, c'est une grosse défense. Tu te dis pas, je vais récupérer le ballon. Et puis t'as même pas une défense exceptionnelle, toi. Enfin,
et puis surtout, il va falloir défendre. Donc autant défendre dans la moitié de terrain, dans la moitié de terrain des Steelers et essayer de les arrêter de leur côté, quitte à perdre le ballon. Donc bon,
on a tout essayé et ça n'a pas de sens en fait.
Non, on a tenté. J'ai tourné tout dans tous les sens.
Mais après, pour les Raiders, on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport à l'an dernier. On surutilise Davante Adams qui a été ciblé 20 fois. Josh Jacobs, du coup, est. Enfin, il a 17 ballons, mais ça reste une équipe qui a quand même pas beaucoup de sens ni d'identité. On a changé Derek Carr par Garoppolo, mais c'est la seule chose qui a bougé. En fait, c'est un pas de côté, quoi.
Et Waller est parti.
En face, TJ Watt exceptionnel, 2 sacks, 6 quarterback hits, l'attaque un peu mieux avec 2 touchdowns, aucun ballon perdu. Ça reste trop épisodique. On n'a pas besoin, je crois, que d'épiloguer sur TJ Watt et les qualités de la défense. Mais pour l'attaque, c'est quand même l'intrigue maintenant de la saison pour Pittsburgh. Est-ce qu'elle va réussir à se mettre au niveau? Est-ce que vous y avez vu du mieux?
Il y avait un peu de mieux. Notamment, j'ai trouvé que les quelques fois où Matt Canada appelait des jeux où Pickens sortait un peu de la poche pour lancer en mouvement, c'était pas inintéressant. Ça touchait souvent au but, on va dire ça comme ça. Donc un poil de mieux maintenant, c'est quand même très épisodique, très sporadique. Et tu sens que quand George Pickens, le receveur, est muselé, tu sens que là, tout d'un coup, il y a aussi l'absence de Diontae Johnson, bien sûr, mais on sent que c'est compliqué en termes d'autres cibles. Et t'as un jeu au sol qui est globalement décevant quand même.
Ouais, décevant, oui et non. D'un côté, c'est la seule fois de la saison où il passe les 100 yards. Il est décevant parce qu'on l'attend à mieux, mais il est mieux que les deux premières saisons. Et globalement, le jeu au sol des deux côtés du terrain, des deux premières journées, pardon, des deux côtés du terrain, il est mieux parce que c'était la pire défense au sol de la Ligue, les Steelers. Il n'encaisse que 69 yards et il dépasse les 100 yards pour la première fois. C'est sûr que on n'est pas sur un jeu au sol ultra dominateur. Mais il y a un peu de mieux, je trouve.
Ouais, mais quand tu mets un premier tour sur un coureur, tu peux pas te contenter de ça au jeu au sol. C'est ça mon truc, c'est que oui, il était mieux qu'en semaine 1, oui, il était mieux qu'en semaine 2, mais ça reste trop faible pour une équipe qui a investi un premier tour sur un coureur. Ça reste trop faible.
Alors, je parle en tant que personne qui a Najee Harris dans son équipe fantasy, je dirais même que ce jeu au sol est scandaleux. Voilà, depuis le début de la saison. Buccaneers 11, Eagles 25, succès défensif des Eagles. Les Buccaneers qui n'ont marqué qu'un seul touchdown en toute fin de match, c'était déjà trop tard, il y avait 25-3. Jalen Carter, 6 quarterbacks, hit un demi-sack, déjà des prises à deux sur lui, le 9e choix de la draft. On a un beau prétendant au titre de rookie défensif de l'année là, qui est en train de se dégager, Lucas.
Oui, ouais, globalement. Et puis en plus, on sait que ce genre de trophées vont aussi avec la hype un petit peu. Il faut qu'on parle. Il peut y avoir des joueurs aussi forts, mais dont on parle un peu moins. Branch, le safety des Lions, a été très bon cette semaine. Mais bon, mais c'est vrai que lui, c'est celui dont on parle le plus, qui a raison d'ailleurs. Il a provoqué un fumble, je crois. Il est toujours présent. Et en plus, on parle de lui au milieu d'une défense qui est très bonne et qui a beaucoup de noms en plus. Donc c'est vrai que ça peut l'aider. Mais ça lui permet aussi d'avoir de la lumière. Donc c'est vrai qu'au bout de 3 semaines, si on devait le donner, on lui donnerait très certainement.
Raphaël, c'est une très très belle prise lors de la draft quand même, Carter.
Oui, c'est une belle prise. Bon, après, vu le profil, vu comment ils sont allés le chercher, ça paraît pas étonnant finalement qu'ils finissent par que ça paye. Petit aparté, je pense qu'un Christian Gonzalez pourrait le titiller sur le titre de défenseur de début.
Voilà, après les victoires
et les stats, les stats aussi, soir, ouais, les stats, parce qu'un cornerback a tendance à museler, donc du coup on lance pas dans son secteur.
On va voir.
Juste pour rappeler, parce que j'ai vu passer beaucoup, et que ce soit dans les commentaires du site, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc., tout le monde est peut-être pas forcément au courant. J'ai vu beaucoup de gens dire oui, mais Carter, il était tombé bas parce qu'il avait un passif, parce qu'il avait un bagage, etc., etc. Mais les gens sont peut-être pas tous au courant. Il faut rappeler, il avait été visiblement impliqué dans une course de rue façon Fast and Furious après le deuxième titre de Georgia. Okay. Il y a un de ses coéquipiers qui a été sorti de la route, 2 personnes sont mortes. Le coéquipier en question avait un taux d'alcool 2 fois supérieur à la limite. Si je ne dis pas de bêtises, il y avait des charges qui avaient été retenues contre lui, je vérifie en même temps que je vous le dis, pour conduite dangereuse et course urbaine. Et il n'avait pas nié les charges. Il a pris 12 mois de probation et une amende de $2000 en plus de 80 heures de community service, donc de service d'intérêt, de travaux d'intérêt général. Général. Et apparemment donc les voitures allaient très très vite, voilà, c'était un petit peu c'est ça l'affaire qui lui colle au basque, et pour laquelle du coup il a été jugé, et voilà. La défense donc de Philadelphie a été étouvante, l'attaque est toujours en rodage hein, par contre hein. 2 interceptions, 1 sur 5 dans la zone rouge, on dit c'est pas grave, c'est l'échauffement quoi. La saison est un marathon, c'est les premières bornes, ouais. On part tranquille.
Écoute, moi je me lance, j'ai envie de dire oui, c'est encore en rodage, malgré cette attaque un peu pas à 100%, ils sont à 3 victoires. La semaine dernière, c'est Devonta Smith qui a brillé, cette semaine c'est plutôt Edgy Brown qui a pris la majorité des réceptions. Quand même, Swift est de mieux en mieux au sol, il commence à accumuler. Enfin voilà,
j'allais dire en vrai c'est un rodage où t'as 200 yards au sol, ouais. Plus de 400 yards en attaque et l'équipe d'en face qui bon. A moins de 200 yards.
Hein, et puis il y a une bonne défense en face aussi hein, quand même, les Buccaneers.
En plus oui, en plus ouais. Donc, ouais.
Ça aurait été encore, enfin, c'est sûr qu'ils auraient pu leur rouler dessus, mais ça aurait été surprenant. Et puis en plus il y a, je crois que dans leur calendrier, je l'ai pas exactement en tête, mais je le regardais et je me disais qu'il y avait encore 3 matchs relativement faciles avant d'affronter les Dolphins, je crois. Donc c'est un rodage qui peut continuer et ça m'étonnerait pas que ça soit à 6-0 dans quelques semaines.
Oui, il y a un Dolphins Eagles qui arrive, ça va être beau.
Pas
ça.
Tout de suite, je crois que c'est dans 3-4 semaines.
Ah, c'est un prime time. C'est un prime time. Je l'espérais, tu vois, pour que ce soit pour un de nous à 19h un dimanche, mais non. Celui-là, c'est un 2h20 du matin. Bah, tu m'étonnes, il est quand même plutôt costaud. C'est le 23 octobre, pour ceux que ça intéresse, le Eagles Dolphins. Tu l'as dit, la défense de Tampa, c'est honorable. En attaque, par contre, ils ont peut-être payé un peu la diversité. Là, au sol, ils sont complètement bloqués. Donc ça devient très difficile. Baker Mayfield, il est vaillant, mais là ça devient trop dur pour lui, Raphaël, à ce moment-là.
Oui, c'est ça, c'est un peu trop compliqué quand ils peuvent vraiment pas avancer au sol, ce qui a été le cas. Après, face à une ligne défensive de Philadelphie vraiment costaud à jouer, donc c'est pas une grande surprise non plus qu'il galère à ce niveau-là. T'as un Mike Evans, un Godwin, toujours de bon niveau, mais c'était pas la marche est trop haute. En fait, là, c'est juste typiquement équipe qui tombe sur plus fort qu'elle et il y a pas grand chose à faire.
Lions 20, Falcons 6, ils ont mis du temps les Lions à tuer ce match. Il a fallu un touchdown de Jared Goff au sol en début de dernier quart, et puis Atlanta a été incapable de revenir parce que bah, ils n'ont pas forcément de quarterback. 21 sur 38 pour Desmond Ridder pour 201 yards. Est-ce que c'est aussi simple que ça? C'est-à-dire que c'est ce qu'on craignait, pas de jeu au sol, pas d'attaque pour Atlanta, 183 yards au total, même si la défense monte en puissance du côté de Détroit. C'était... J'ai l'impression que c'est exactement ce qu'on attendait d'Atlanta, Lucas.
C'est un peu dur, je pense. C'est un peu dur parce que c'est vrai que c'est quand même, c'est sûr que c'est le point fort, c'est ce grâce à quoi l'attaque doit avancer, le jeu au sol, et quand on enlève ce point fort-là, c'est compliqué derrière. J'ai envie de dire que c'est un peu pour toutes les équipes. Maintenant, ils se sont relativement bien battus quand même. Le score est un peu plus large que ce que le match a montré. Ils ont essayé de trouver des solutions. Maintenant, ils sont limités, c'est sûr. Mais je trouve que c'est pas une défaite. Allez, je vais pas dire que c'est une défaite encourageante, mais je veux dire que c'est pas une défaite qui remet tout en question. On est sur une équipe qui a gagné des matchs quand même. Je sais pas. Je serais un peu moins dur que ça.
Je sens que Lucas est le juge bienveillant dans notre équipe.
C'est possible, un peu trop peut-être.
Si on faisait la nouvelle star, je sens qu'il essayait d'être bienveillant avec Josh McDaniels tout à l'heure.
Non, Josh McDaniels, j'ai dit que...
Non, mais t'as dit, j'essaye, je peux plus, mais...
Non, mais après ça, c'est l'affection patriote, certainement. C'est plus, là, il y a un manque d'objectivité, je pense. Mais même là, je ne peux pas le défendre, donc non, je sais pas, peut-être.
Bon, Raphaël, t'essayes de défendre Desmond Ridder, parce que c'était pas toi qui étais team Tyler Heinicke ?
Non, alors là, j'avoue ne pas avoir.
Attends, je confonds, c'est Victor qui avait demandé à ce que Tyler Heinicke joue.
Pour le coup, j'ai pas compris quand Victor, dans un des derniers podcasts, a sorti ça.
Ah, c'était ça, voilà.
Heinicke, ça se saurait, mais bref, ça se saurait s'il pouvait apporter vraiment quelque chose. Après, oui, je fais partie par contre de ceux qui ont l'impression que ce qu'on a vu de Desmond Ridder est globalement limité. Plancher correct, on va dire ça comme ça, mais plafond vraiment très bas.
On est vraiment sur de la chambre de bonne à Paris, hein, au niveau du plafond. On est sous les toits. C'est en pente et il fait chaud là.
J'aurais tendance à dire la même chose. Après, voilà, je vais encore lui laisser le bénéfice du doute parce qu'il a pas tant de matchs que ça titulaire dans la poche, on va dire ça comme ça. Il reste jeune, hein, tu vois, on va pas non plus. Ça fait pas 3 ans qu'on le voit, donc je veux bien entendre ceux qui croient encore en lui et qu'il peut être en développement encore. Mais là, on l'a vu, ils doivent lui faire passer 36 fois le ballon et ça coince. Et j'ai peur que ce soit la limite, en tout cas cette saison d'Atlanta, ça va être celle-là.
C'est un joueur qui a joué que 4 matchs l'an dernier et 3
oui,
cette année.
Oui, c'est pour ça. Faut pas non plus. Ne le mettons pas sous le bus, mais.
C'est pas Zach Wilson ou Justin Fields. Tu vois, le mec, il lance des sujets pour les prochains podcasts.
Non, c'est pas ça. Mais malgré tout, en 7 matchs, il nous a jamais donné l'impression de pouvoir faire plus ou beaucoup. Comme là, t'as déjà l'impression qu'un CJ Stroud, en 3 matchs, il est capable d'aller chercher. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'on l'a pas encore vu. C'est ça qui m'embête un peu.
Ah bah il y a des rookies où tu le vois vite, c'est sûr que là Desmond Ridder
pas aidé par sa ligne offensive non plus, il est un peu abandonné
aussi. Non, c'est vrai aussi. Bon, les Lions aussi ont manqué d'efficacité, seulement 1 sur 4 dans la zone rouge, c'est presque une bonne nouvelle, ça montre qu'ils ont de la marge. Je suis positif, j'essaie de faire une Lucas, est-ce que c'est assez
non,
positif?
Non, c'est catastrophique. Du coup, il faut que je compense. non, c'était un peu plus poussif, ils ont été un peu plus solides en défense, c'est une bonne nouvelle parce que d'habitude et notamment la semaine passée, ils avaient pris beaucoup de points et ils avaient eu qu'un sac, je crois, sur les 2 premières semaines et là ils ont réussi à enchaîner, ils en ont eu 7 cette semaine, donc ça veut dire qu'en effet en défense, il y a un petit peu de mieux. Et puis en attaque, bon, on a vu du Jared Goff, c'est-à-dire que ça n'a pas été flamboyant, mais ça a été suffisant. Ils prennent des matchs, ils prennent un petit peu d'avance, ou en tout cas ils continuent dans leur division, donc c'est une bonne chose. Hein.
Goff et Amon-Ra St. Brown vraiment efficaces, Jahmyr Gibbs aussi un petit peu plus, donc c'est pas mal. Raphaël, t'es arrivé à y voir du positif toi dans celui-là?
Oui, quand même. Comme vous l'avez un peu dit, les jeunes joueurs là de l'équipe, je trouve, ont brillé sur ce match. Et donc, ça montre que il y a une draft plutôt intéressante qui peut permettre aux Lions de progresser dans les années à venir. Après, là où je le trouve plus positif de manière globale, c'est qu'en fait, Détroit confirme que c'est devenu une bonne équipe qui arrive à battre les équipes moins bonnes de NFC.
qu'avant ils l'auraient perdu.
Avant ils l'auraient perdu. Alors est-ce qu'ils ont encore passé le cap? En fait, ils sont en train. Est-ce qu'ils ont encore passé un cap pour aller plus loin? Je reste pas convaincu, mais en tout cas, ils confirment les bons trucs de l'an dernier. En mode, on est capable de battre les équipes moins bonnes que nous en NFC. Et ça, déjà, c'est un bon premier pas.
On termine avec les Seahawks 37, Panthers 27. Les Panthers qui ont bien résisté en attaque, mais leur défense continue de décevoir. Elle n'a forcé que deux punts dans ce match. 13-12 hein, pour Carolina à la pause. Mais Kenneth Walker a marqué deux fois après la mi-temps pour creuser l'écart. Kenneth Walker qui a 97 yards et deux touchdowns au sol et qui a aussi capté trois ballons pour 59 yards. C'est le facteur X un peu de cette équipe. Kenneth Walker, c'est un peu le baromètre, on va dire, Lucas.
Oui, quand il performe bien, ça performe. Après... C'est vrai que globalement, les Seahawks, ça met beaucoup de points, ça en prend aussi beaucoup. Ils ont fait un peu briller Andy Dalton et Adam Thielen. On a l'impression d'être quelques années en arrière. Mais c'est vrai que Kenneth Walker, quand il est bon, il fait beaucoup de bien. Et là, en effet, il a été très bon. Et c'est l'homme du match, très clairement.
Raphaël, un truc à ajouter sur les Seahawks?
Peut-être un peu déçu par leur défense quand même, qui n'arrive pas à être au niveau attendu, ou au niveau espérant. En tout cas, on a eu un bon retour de Devin Witherspoon au poste de cornerback le deuxième année, mais le reste, je trouve que ça prend beaucoup de points face à une équipe des Panthers qui n'est pas exceptionnelle, quoi.
Les Panthers quand même, donc en attaque, en effet, ça a été plutôt sympa. Andy Dalton, 34 sur 58, 361 yards, 2 touchdowns, aucune interception. Et Adam Thielen, il le disait, Lucas, 11 réceptions, 145 yards, 1 touchdown. Il s'est régalé. Ça montre aussi peut-être la marge de progression de Bryce Young quand on voit ce que Dalton fait avec cette équipe.
Oui, et en même temps, quand c'est Adam Thielen le receveur numéro 1 en 2023, la marge de progression pour lui, oui, ça peut être, il peut y en avoir justement de la marge, mais je suis pas sûr que ça aille très haut avec cet effectif-là. Il y a beaucoup aussi de fautes, de flags du côté des Panthers. Ça, c'est pas forcément un bon signe quand on a une équipe jeune et quand on a un coach qui vient d'arriver. Donc, c'est bien, ça marque 27 points. Maintenant, c'est une équipe. Qui est en construction. On parlait de temps de passage en début de ce podcast. Eux, ils sont dans leur temps de passage. Ils sont pas en avance sur leur temps de passage. En fait.
C'est vrai que ça pourrait être. C'est vrai que ça pourrait être mieux. Andy Dalton, 35 ans. Adam Thielen, 33 ans. Pour vous donner une idée. On va terminer cette émission là-dessus, Raphaël, à moins que Andy Dalton t'inspire, peut-être. Un monologue de fin.
Eh ben, écoute,
à la gloire
Andy Dalton. Pourquoi les Jets ne tentent pas le coup?
C'est trop tard.
Ouais, bah du coup le problème c'est qu'il y en a quelques-uns qui sont sur le terrain maintenant, les Minshew, les Dalton et tout, il fallait les tenter pendant l'intersaison. Bon, c'est comme ça que se termine l'épisode 637 du podcast Touch en Actu. On remercie tous ceux qui nous écoutent, évidemment. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des 5 commentaires. Alors, j'allais dire 5 étoiles, mais non, je ne dois pas vous influencer. Laissez un commentaire sur les applis de podcast. Si vous vous sentez bien ici, n'hésitez pas, 5 étoiles, ça nous fera toujours plaisir et ça nous aide dans le référencement. Vous pouvez mettre un petit commentaire aussi avec, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez aussi aller sur Tipeee, où il y a des nouveaux porte-clés, où il y a plein de choses qui représentent le site. Si vous le souhaitez, on remercie Henk, on remercie Masme Jean Lover, évidemment, et on remercie Soif99 et Nicolas, qui sont les derniers tipeurs, pour nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu et Instagram @TouchDownActu. En entier. Les réseaux sociaux perso, alors Raphaël _TDA pour Raphaël et celui de Lucas, c'est un running gag puisqu'on sait jamais si c'est Lucas Vola ou Elle Vola. Je crois que c'est Elle Vola sur Twitter.
Même moi j'en doute désormais, je suis tellement souvent sur Twitter. Elle Vola en effet.
Elle Vola, voilà, on est d'accord. Et sur Instagram, on vous laisse le retrouver comme des grands.
Lucas Vola, vous allez voir ça. Il n'y a pas beaucoup d'originalité.
Voilà, ça vaut vraiment le coup. Tu veux pas faire influenceur voyage?
Écoute, si seulement, ben alors ça voudrait dire que je serais autour du monde et que je serais plus avec vous, messieurs, dames, mais franchement, si c'est le prix à payer, je le fais volontiers.
Ouais, j'allais dire, on t'en voudra pas. Ouais. Hein, si vraiment
je ferais des apparitions dans le podcast ou dans le fauteuil à différentes time zones, ça serait magnifique.
Après, il faut que tu bosses un peu ta pose trois quarts fesses. Ouais. Tu la fais pas beaucoup, je trouve, sur Instagram.
C'est vrai.
Et ça marche
bien. Mais déjà, il faut que je bosse les fessiers, déjà, et après, je ferai une pose trois quarts fesses.
Le quadriceps est puissant, on le voit hein, sur certaines photos, mais peut-être au niveau du fessier, peut-être que c'est l'habillement aussi, hein, tu vois, il faut que tu trouves un truc qui mette un peu plus en valeur, la taille un peu plus haute, tu remontes un peu le t-shirt et tu mets en valeur le 3/4.
Je vais proposer ça à MC pour dimanche, je pense qu'ils seront ravis.
T'imagines, ils vont mettre ça dans ton synthé en bas. Lucas Vola, commentateur / influenceur abdo-fessier voyage. C'est... c'est obligatoire. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et pour toute l'actu de la NFL, évidemment, parce que on est là pour ça, pour la NFL et pour Taylor Swift, messieurs dames, c'est sur tdactu.com. On se retrouve demain pour la preview de la semaine à venir. Ce sera avec Victor Roulier et Raoul Villeroy. Salut tout le monde, merci Victor, merci Raphaël et Lucas. Voilà.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.